J'ai noté dans... Bonjour à tous, pardon. J'ai noté dans ce que tu as partagé tout à l'heure que nous voulions mettre notre confiance en Dieu tout au début de notre culte, puis aussi qu'on se témoigne de l'amour les uns pour les autres. Et il me semble que on pourra revenir sur ces deux points en lisant notre texte d'aujourd'hui. L'épître de Jacques. Facile à lire, assez facile à comprendre, beaucoup moins facile à mettre en œuvre, il me semble. La dernière fois, on a parlé des riches et des riches qui utilisaient leur richesse sans tenir compte de l'existence de Dieu. Ce passage-là ne semblait pas s'adresser particulièrement à une assemblée ou à des chrétiens. Par contre, il me semble que le texte aujourd'hui s'adresse tout particulièrement à nous. Et ce texte commence par « Mes frères, patientez donc ». Deux mots importants, il y en a trois importants. Mais j'en souligne déjà deux, et ce n'est pas ce qu'on croit, c'est mes frères. Jacques s'adresse ici à la communauté du peuple de Dieu. En fait, il s'adresse à 12 communautés dispersées du peuple de Dieu. Ce passage s'adresse à nous tous, ses enfants. Et puis, le deuxième mot important, donc. Ce « donc », il fait référence aux menaces et avertissements qui ont été prononcés quelques versets avant. Et du coup, cette fois-ci, il s'agit d'un réel encouragement pour nous tous. Ce passage est le contre-pied du précédent. Jacques veut nous encourager dans les périodes d'injustice, dans les périodes de difficulté. Et le cœur de cette exhortation, c'est la patience. Et en fait, ce texte nous exhorte à une certaine attitude lorsque nous sommes, en tant qu'individus bien sûr, mais je pense surtout en tant qu'assemblée, en tant qu'Église de Dieu, dans la difficulté. Alors, nous pouvons prendre ensemble ce texte. Donc, nous sommes dans l'Épître de Jacques, au chapitre 5, les versets 7 à 12, et je vous invite à lire ce texte ensemble. Jacques, chapitre 5, les versets 7 à 12. Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous répandez pas en plaintes les uns contre les autres. Frères et sœurs, si vous ne voulez pas être condamnés, voici que le juge se tient déjà devant la porte. Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience, persévérante dans la souffrance, les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comme Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Avant tout, frères et sœurs, ne faites pas de serment, ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre, que votre oui soit un vrai oui, ou votre nom, un vrai nom, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. Je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Seigneur, nous te louons pour ta parole, parce qu'elle nous fait du bien, parce qu'elle nous enseigne, parce qu'elle nous corrige, parce qu'elle nous reprend. Et Seigneur, nous voulons te prier ce matin que ta parole, au-delà de nouvelles connaissances que nous pourrions acquérir, puisse transformer nos cœurs et que nos vies ainsi soient transformées pour le témoignage de la bonne nouvelle. Amen. Les douze assemblées en question devaient certainement vivre des moments difficiles. Il y avait la persécution et les chrétiens avaient été dispersés. Et donc, visiblement, nous sommes dans une période de difficulté pour ces chrétiens. Et j'ai l'impression que les difficultés, on voit toujours des choses très, très graves, des périodes de persécution physique, mais parfois, les difficultés sont beaucoup plus insidieuses que ça. Par exemple, les difficultés pourraient être la gestion du départ d'un plein temps, par exemple, et puis l'arrivée de nouveaux plein temps, l'arrivée de nouveaux anciens, l'arrivée de nouvelles personnes dans l'Assemblée, des changements importants dans l'Assemblée, et il me semble que nous vivons ces choses-là. Alors, ce ne sont pas des difficultés de persécution ou des difficultés d'ordre physique ou d'emprisonnement où on n'est pas empêché d'exprimer notre foi. Néanmoins, des difficultés où l'ennemi a plaisir à s'infiltrer et à semer la zizanie et la division dans les assemblées. Et c'est le cas aussi pour nous. Soyons vigilants à bien détecter les moments de difficulté. Et bien souvent, dans les périodes un petit peu difficiles ou compliquées, si on veut être moins alarmiste, bien souvent, l'impatience s'installe. Pour plusieurs raisons. Premièrement, on ne voit pas aboutir le résultat de notre témoignage. Ni dans le monde qui nous entoure, ni auprès de nos proches. Et puis, parfois aussi, souvent, nos frères et sœurs ne sont pas d'accord avec nous. Ils ne sont pas d'accord avec nous dans les solutions qu'on propose, dans les solutions qu'on voit, ou même dans le comportement à adopter. Et on n'est pas d'accord. Et puis, la troisième chose qui nous rend impatients, c'est que les difficultés en question, elles ne prennent pas fin aussi vite que ce que nous pourrions le penser. Ça dure. Les difficultés durent. Et pour ces trois raisons, nous sommes impatients. Pour ces trois raisons, je suis impatient. Et j'aimerais qu'on puisse voir au travers de ces trois raisons, trois points qui nous sont soulignés par le texte. D'abord, soyons patients, parce que c'est Dieu qui agit et il revient bientôt. Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur, il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard, jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Alors oui, notre patience, elle est alimentée par l'injustice, par le monde qui nous entoure. Des gens sans foi ni loi qui réussissent, des enfants malades, des amis qui partent avant l'heure. On est impatient de voir le règne de Dieu. On aimerait que toute injustice cesse. Mais en fait, nous n'y pouvons rien. Nous sommes impuissants. Et cette impatience, elle traduit certainement le fait que nous oublions la souveraineté de Dieu sur toute chose. Et puis, cette impatience, elle est aussi alimentée parce qu'on ne voit pas le fruit de notre témoignage, toujours par rapport au monde qui nous entoure. L'ami qui nous est cher, il n'entend pas la bonne nouvelle. Alors on s'impatiente. Mais encore une fois, cette impatience traduit le fait que nous oublions que c'est Dieu qui change les cœurs. Je vous lis un passage dans Jean, chapitre 4, les versets 36 à 38. « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Parfois, nous semons et nous ne voyons pas le fruit de ce que nous avons semé, mais d'autres récoltent le fruit de notre travail et vice-versa. Parfois, nous récoltons le fruit que d'autres ont semé. Dieu nous a promis que Christ revient bientôt. C'est là notre espérance. Dans un monde où le royaume de Dieu et sa justice seront une réalité, où il n'y aura plus de cris ni de souffrance. Alors, soyons encouragés par cette perspective qui sera concrète à son retour. Et quoi qu'il arrive, au moment où chacun d'entre nous nous rejoindrons Dieu. Mais cette réalité du retour, elle veut aussi dire, et à chaque fois que je lis un passage sur le retour de Christ, ça veut aussi dire que tous ceux qui ne se seront pas tournés vers Christ seront condamnés à l'éternité loin de Dieu. Et en fait, notre impatience, elle est en opposition à la patience de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Dieu. Soyons patients dans l'espérance du retour de Christ, et soyons aussi patients pour que tous nos amis puissent se tourner à Christ. Et mettons ce temps d'attente à profit pour témoigner par nos vies de la gloire de Dieu et annoncer la bonne nouvelle. Alors soyons confiants que ce que nous avons semé pourra être récolté par d'autres, car Dieu agit en son temps. J'aimerais que nous puissions avoir un premier pardon par rapport à notre impatience. Nous sommes impatients parce que nous oublions que Dieu est souverain sur toute chose et nous n'avons pas la patience de Dieu pour attendre que ceux qui entendent la bonne nouvelle se tournent à lui. Un deuxième point que j'aimerais aborder. Soyons patients, parce que c'est Dieu qui juge, et il revient bientôt. Alors dans les difficultés, on a vite tendance à se monter les uns contre les autres. Alors c'est un grand mot, mais on a là quand même rapidement la critique facile à... Quand on n'est pas d'accord, on tombe vite dans ce genre de travers. Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères et sœurs, si vous ne voulez pas être condamnés. Voici que le juge se tient déjà devant la porte. La critique, on peut aussi dire médisance, c'est un petit peu prendre la place de Dieu. En effet, alors il ne s'agit pas, dans ce passage-là, il ne s'agit pas de reprendre un frère ou une sœur qui s'égare, il ne s'agit pas de ne pas dire les choses qui doivent être dites dans des situations critiques. On est encouragé, exhorté à aider nos frères et sœurs à les reprendre, à les suivre. Mais il s'agit là vraiment de la critique, de la médisance les uns envers les autres. Et puis, je disais, c'est prendre la place de Dieu, parce qu'en effet, en médisant, on porte un jugement de valeur sur les enfants de Dieu. C'est un petit peu prendre la position des riches avant, pas par rapport à des richesses physiques ou de monnaie sonnante et trébuchante, mais plutôt des richesses intellectuelles. On se fie à notre jugement plutôt que sur Dieu. En jugeant mon frère ou ma sœur, je compte sur mon discernement, plutôt que sur la justice de Dieu. Je prends la place de Dieu. Pire, je considère que Dieu, en ayant adopté tel ou tel, puisque nous sommes tous des enfants adoptés, Dieu s'est trompé. Il n'est quand même pas vraiment digne d'être appelé enfant de Dieu. Du coup, je me place au-dessus de mon frère ou de ma sœur, alors que la parole m'invite à tout le contraire. à considérer mon prochain comme supérieur à moi-même. Alors nos difficultés d'assemblée, nos difficultés personnelles ne doivent pas nous conduire à nous critiquer les uns les autres, mais bien plutôt à nous placer dans une attitude d'humilité, de soumission à notre Dieu, afin de le laisser agir en chacun d'entre nous et en premier en moi. J'aimerais encore faire un deuxième pardon par rapport à mon attitude, à nos attitudes, et demander pardon au Seigneur de tout ce que, dans ma bouche, ce qui peut être une critique par rapport à mes frères et sœurs. Mais médire sur mon frère ou ma sœur ne s'arrête pas là. C'est aussi créer dans l'Église de la mésentente, des disputes, des rancunes, de la division. En fait, critiquer mon frère ou ma sœur, ça revient à quoi ? Ça revient à s'opposer au plan divin de Dieu. En effet, Dieu a choisi de s'acquérir un peuple d'adorateurs. Lorsque mon attitude, et en particulier la critique, a pour résultat de diviser, je m'oppose au plan divin de Dieu. Alors, encore une fois, dans les périodes difficiles, ou les périodes cruciales dans la vie d'une assemblée, le diable prendra toutes les mesures nécessaires pour diviser, affaiblir. Et prions pour que nous ne soyons pas le relais de telles attitudes, mais recherchons l'unité pour se supporter les uns les autres, comme nous sommes encouragés à le faire par l'apôtre Paul. Encore une fois, pardon pour toutes les fois où chacun d'entre nous, on peut être les vecteurs de disputes, de divisions, de discordes. Et puis enfin, troisième point, critiquer son frère ou sa sœur, c'est faire barrage à la bonne nouvelle. En effet, Dieu a choisi son Église pour témoigner de sa gloire. Et le moyen particulier qu'il a choisi d'utiliser pour témoigner du changement qu'il opère dans les vies, c'est l'amour que nous nous portons les uns aux autres. Si notre vie d'assemblée est caractérisée par la discorde, par la discorde, alors le témoignage de Christ dans nos vies pour le monde est annulé. Si on est aujourd'hui dans une situation de discorde, je ne dis pas que c'est le cas, mais personnellement ou en assemblée, prenons le temps de régler ces situations, ces tensions, dans une attitude de pardon et d'amour. Alors encore une fois, nous voulons être dans une attitude de pardon par rapport à des disputes, des discordes qui font que nous avons du mal à témoigner de l'amour que nous nous portons les uns aux autres. Alors pour résumer, la critique fait le jeu de l'ennemi. La critique, c'est prendre la place de Dieu, c'est s'opposer au plan de Dieu et c'est faire barrage à la bonne nouvelle. Recherchons l'unité pour laisser toute la place à Dieu et renforcer son Église pour proclamer la bonne nouvelle. Et puis, un troisième point. Dieu est amour et il revient bientôt. Soyons patients. Je vous lis le troisième passage de notre texte. Frères et sœurs, prenez comme modèle de patience persévérante dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur. Parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Alors bien souvent, quand on a des soucis, des difficultés personnelles ou dans l'assemblée, eh bien on prend le taureau par les cornes. On engage des choses, on planifie, on règle, on corrige. Et pourtant, on ne voit pas la fin des difficultés. L'impatience s'installe. Mais pourquoi ces difficultés durent ? On a fait tout ce qu'il fallait. On a d'ailleurs toujours fait tout ce qu'il fallait. Et Jacques nous rappelle ce qu'ont enduré les prophètes de l'Ancien Testament pour proclamer la parole de Dieu et combien ils ont été persévérants et sont restés dans la volonté de Dieu. N'oublions jamais que nous sommes dans un combat spirituel. Et l'exemple le plus parlant est très certainement l'attitude de Job. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et pourtant, il est resté fidèle jusqu'au bout. Mais l'encouragement aujourd'hui, c'est l'issue que Dieu a réservée à Job. Il l'a comblé au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Alors attention, mon propos, ce n'est pas aujourd'hui de promettre que nous serons dans des richesses ici-bas ou que toutes les difficultés disparaîtront dans nos assemblées. Mais nous avons cette espérance que nous passerons l'éternité auprès de Dieu. Là est notre espérance. Alors, on a entendu cette semaine, je ne sais pas si vous avez entendu, que l'évangéliste Billy Graham est décédé. Et il a été dit de lui, alors je ne sais pas si c'est lui qui a prononcé cette parole ou pas, mais il est rentré chez lui. Et pour patienter dans les difficultés, ayons cette ferme assurance que soit le jour de notre mort physique, soit au retour du Christ, nous rentrerons chez nous où les pleurs cesseront. Alors là aussi, encore une fois, nous voulons être dans une attitude de repentance et de pardon par rapport à notre impatience dans les difficultés et nous placer devant Dieu pour qu'il renforce cette espérance que nous avons de la vie éternelle à ses côtés. Et puis j'arrive au dernier point, et je vous avoue que quand j'ai lu le texte au départ, je me suis bien demandé ce que je pouvais faire avec ce verset 12. Je ne comprenais pas comment le rattacher au reste du passage. On est sur la patience dans différentes situations, et puis, avant tout, frères et sœurs, ne faites pas de serment, ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre. Que votre oui soit un vrai oui et votre non un vrai non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup de la condamnation. Savez-vous pourquoi on jure ou on fait des serments ? Alors il ne s'agit pas ici de jurons ou de grossièreté, ou d'injures, ou je ne sais quoi, mais c'est plutôt des affirmations ou des promesses appuyées sur telle ou telle chose. Alors, on pourrait entendre « je te jure sur ma tête » ou « sur la tête de ma mère » ou « je ne sais quoi » ou « bref ». Eh bien, la plupart du temps, on jure parce que le propos n'est pas du tout convaincant ou parce que le propos peut être remis en question. Nul besoin de jurer si le propos est clair et sûr. On se rappelle que Pierre écrit à des églises qui sont dispersées et très certainement dans des temps très difficiles. Ayons toujours ça en tête. Et la condamnation de cette pratique est particulièrement importante dans les moments de difficulté. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, prendre des engagements sur le ciel ou Dieu, c'est plus tellement d'usage ou d'actualité. Mais c'était un usage courant et fermement condamné par la parole. Je vous relis Matthieu 5, 33 à 37, dans le sermon sur la montagne. Matthieu 5, 33 à 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Nous ne pouvons pas jurer sur rien du tout, parce que nous ne sommes maîtres de rien du tout. Mais pire que ça, le serment est utilisé si le propos n'est pas sûr. Et malheureusement, même les gens du monde doutent de la véracité des propos d'un homme qui ne sait pas se contenter d'un oui ou d'un non clair. Si on a le besoin de jurer, de promettre, si ce besoin-là se fait sentir, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus, nous-mêmes, de ce que nous disons ou annonçons. Nous nous engageons dans une voie dangereuse où nos projets prennent la place de ceux de Dieu, qui, eux, par contre, ne peuvent pas être remis en question. Faisons attention de ne pas promettre, et en particulier dans les temps difficiles, de ne pas promettre des choses dont nous ne sommes pas sûrs et dont nous ne sommes pas maîtres. Je vous rappelle ce qui était dit dans Exode 20 au verset 7. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Toute promesse en dehors de celle de Dieu revient à me mettre, encore une fois, à la place de Dieu. Je vous rappelle ce qui était écrit au chapitre 4, qu'on a lu ensemble dans Jacques, les versets 13 à 17. « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve ? Qu'est-ce que votre vie ? Une brume légère, visible quelques instants, pardon, et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. » On est, en fin de compte, encouragé à répondre oui ou non à ce que nous savons et à ce que nous vivons. Et en lien avec tout ce qui précède, les difficultés doivent nous conduire à une totale dépendance et confiance à Dieu. Et une dernière fois, nous voulons avoir une attitude de pardon devant toutes les choses que nous pouvons avancer, les plans que nous pouvons mettre en place, mais qui finalement ne sont que les plans des hommes, qui ne sont pas les plans de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions prier en ce sens, et puis peut-être après, Tony, avoir un chant particulièrement dirigé sur le pardon. Prions. Seigneur, nous voulons te demander pardon parce que nous sommes continuellement impatients. Nous sommes impatients parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe dans le monde, parce que nous avons trop vite tendance à croire que tu n'es pas là quand nous voyons ce qui se passe, parce que nous ne voyons pas notre entourage se tourner vers toi. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que nous avons la critique facile envers nos frères et sœurs, Seigneur, et nous nous plaçons en opposition à toi, en opposition à ton Église, en opposition à ton témoignage. Seigneur, nous voulons aussi te demander pardon parce que en face des difficultés, nous perdons patience et nous ne comprenons pas pourquoi elles durent. Mais Seigneur, nous oublions la promesse merveilleuse que tu nous fais de passer l'éternité à tes côtés. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon parce que bien souvent, nous mettons nos plans à la place des tiens. Nous voulons que ce que nous souhaitons se réalise et oublions que ton plan est parfait. Seigneur, nous voulons te prier de transformer nos cœurs, que nous puissions jour après jour nous mettre dans une totale dépendance à toi, Seigneur. Amen.